Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat mais aussi d'opinion avec les auditeurs et donc l'info avec Amandine de retour tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Vladimir Poutine qui justifie une nouvelle fois la guerre en Ukraine. Le fils du chef Yannick Aleno tué en plein Paris par un chauffard qui venait de voler une voiture. Et puis on vous emmènera dans le sud-ouest où le thermomètre devrait flirter avec les 30 degrés cet après-midi.
Nos deux focus du jour. Retour tout d'abord sur ce défilé militaire à Moscou. On est loin, vous le verrez, de la démonstration de force. Et à 12h50, faut-il ou non réintégrer les soignants non vaccinés? Rémi Salomon de l'APHP sera l'invité de RTL Midi.
C'est justement notre question du jour sur RTL.fr. Faut-il réintégrer ces soignants? Vous dites oui à 60%. La météo, c'est avec vous Louis Baudin. Bonjour.
Bonjour Amandine.
Et il fait beau et chaud.
Ah oui, vous allez conserver votre bronzage effectivement avec ce soleil qui va dominer quasiment partout cet après-midi. Petit voile nuageux sur la Bretagne et puis des orages quand même en fin d'après-midi sur les reliefs, donc sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou encore le Jura, seulement en fin de journée, donc seulement en montagne. Et puis ailleurs, avec ce soleil, les températures vont encore grimper. Nous serons autour de 21 degrés en Corse, c'est là où il fera moins chaud, mais 23 à 26 degrés au moins dans les autres régions et jusqu'à 29 degrés même parfois autour de la vallée de la Garonne.
Et vous nous direz dans un instant si c'est vraiment ou pas exceptionnel. À tout de suite.
RTL Midi.
Mais pour commencer, direction Moscou et en plein conflit avec l'Ukraine, on s'attendait à une démonstration de force de la Russie. Ce défilé du 9 mai a finalement été plutôt sobre, en deçà en tout cas de ce qu'on a pu voir par le passé, Félix Grasso.
Alors disons que les armes présentées étaient moins ostentatoires. Certains disent que c'est parce qu'elles sont engagées en Ukraine ou alors détruites. D'autres estiment qu'il aurait été de mauvais goût d'en faire étalage alors que des soldats russes se battent. Mais ces considérations n'ont eu que peu d'impact sur la foule venue assister à cette parade. Comme chaque année, des Russes sont venus en famille de tout le pays pour voir défiler des chars, des lance-missiles et d'autres véhicules militaires. Pour leur grande déception, le survol de la capitale par des avions de chasse, hélicoptères de combat et le bunker volant devant héberger les responsables russes en cas de guerre nucléaire a été annulé à la dernière minute en raison des conditions météo. Mais tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, peut-être un peu moins festive que lors des années précédentes, mais il en aurait fallu beaucoup plus pour empêcher les Russes d'honorer la mémoire de ceux qui ont participé à la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle ici.
Félix Grasso à Moscou pour RTL, et avant cette parade militaire, Vladimir Poutine a pris la parole, 10 minutes de discours pour justifier les opérations menées en Ukraine.
La Russie a appelé l'Occident au dialogue, mais en vain. Les pays de l'OTAN n'ont pas voulu nous entendre. Ils préparaient une nouvelle opération punitive dans le Donbass. À Kiev, ils parlaient de l'acquisition possible de l'arme nucléaire. Une menace absolument inacceptable se constituait directement à nos frontières. Les armes les plus modernes étaient livrées en provenance des pays de l'OTAN. La Russie a stoppé cette agression. C'était la seule bonne décision à prendre.
Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
On a connu Vladimir Poutine plus dur, plus offensif, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, c'est vrai qu'on s'attendait à un discours plus musclé, plus guerrier, plus menaçant. On a eu droit à un discours presque classique, avec un hommage appuyé, comme chaque année, aux vainqueurs de l'armée soviétique contre l'Allemagne nazie. Et la transition était toute faite pour Vladimir Poutine avec la situation actuelle. On vient de l'entendre, son discours a été la justification de l'intervention des forces russes en Ukraine, avec des références permanentes à la Seconde Guerre mondiale. Le président russe a parlé des soldats russes actuels comme les héritiers des vainqueurs de ce qu'on appelle en Russie la Grande Guerre patriotique. Ils doivent, comme l'ont fait leurs aînés, défendre leur patrie contre le nazisme. Un discours qui laisse entendre que pour la Russie, l'opération spéciale se poursuit, qu'elle est justifiée et que la situation est sous contrôle. Donc pas de déclaration de guerre à l'Ukraine, pas d'appel aux réservistes, rien qui pourrait indiquer à la population russe que son pays est en difficulté en Ukraine.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
Les Européens sont réunis à Strasbourg. Ce 9 mai est en effet aussi la journée de l'Europe.
Et Julien Fautra est sur place pour RTL. Bonjour Julien. Emmanuel Macron doit prendre la parole dans moins d'une heure. Le président français, fraîchement réinvesti, vient défendre sa vision de l'Europe. Une Europe puissante, mais une Europe de paix.
Oui, c'est la symbolique de cette journée ici à Strasbourg. Puis ce soir à Berlin, l'Élysée ne s'en cache pas. 2-9 mai, deux modèles, celui de la liberté, c'est l'image qu'Emmanuel Macron entend envoyer, l'Europe, la démocratie, face à un autre 9 mai à Moscou, affirmation de la force du révisionnisme historique qui aujourd'hui verse le sang sur la terre ukrainienne. Fermez les guillemets, ça c'est pour le message politique de la présidence française. Concrètement, Emmanuel Macron avait lancé des travaux pour que des experts, des citoyens européens fassent des propositions pour réformer l'Europe. Ces propositions sont reçues aujourd'hui sur des aspects qui sont très précis. Un seul exemple, il y en a plein d'autres, l'intégration du climat dans les programmes scolaires. Ça s'appliquerait à tous les petits Européens. Je vous passe les propositions sur la réforme des institutions. Les mots d'Emmanuel Macron seront ceux d'une Europe démocratique. Il s'exprime dans moins d'une heure. Il faudra tout de même attendre pour savoir si les propositions des citoyens se retrouvent effectivement dans les textes.
Julien Fautra en direct de Strasbourg pour RTL dans l'actualité. Également ce drame, je vous le disais, cette nuit à Paris, le fils du chef Yannick Aleno a été tué par un chauffard, un homme qui circulait à bord d'une voiture volée, Alice Morino.
Absolument, le chauffard s'empare d'abord de cette Audi de luxe par la ruse. Hier soir, il présente un faux ticket au voiturier d'un restaurant chic du 7e arrondissement de la capitale, se faisant passer pour le propriétaire de ce véhicule. Une fois au volant du bolide, il fonce dans les rues de Paris. Arrivé à un feu rouge, il tente de passer entre un véhicule VTC et un scooter, mais il percute les deux. Le conducteur du scooter, Antoine Aleno, 24 ans, est projeté au sol. Il décède suite au choc. Il s'agit bien du fils du chef étoilé, Yannick Aleno, la passagère du deux roues. Et quant à elle, légèrement blessée, le conducteur du VTC souffre également de contusions. Le chauffard laisse l'Audi accidenté sur place. Il prend la fuite à pied, mais il est rapidement interpellé par un policier hors service. C'est un homme de 24 ans qui a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie. Il a été transporté à l'hôpital pour des prélèvements.
Alice Moreno du service police-justice de RTL.
François Fillon et son épouse Pénélope, bientôt fixés sur leur sort.
La cour d'appel de Paris rend son jugement dans moins d'une heure maintenant dans cette affaire de soupçons d'emploi fictif qui, vous souvenez, avait plombé la campagne de 2017. En première instance, l'ancien Premier ministre avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et 10 ans d'inéligibilité. Louis Baudin nous le disait, on va sans doute se dépasser cet après-midi les 25 degrés à Paris et Strasbourg. Température estivale qui devrait durer toute la semaine. Aujourd'hui, c'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud, au moins 28 degrés à Bordeaux. Denis Grandjean, vous avez choisi d'aller vous rafraîchir et vous êtes donc au Cap Ferret.
Oui, alors rafraîchir, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je suis en plein soleil sur la jetée.
Il y a un peu d'air,
et à côté de moi, je suis avec un peu d'air, pas trop. Hein. C'est un temps d'été. Je suis avec David Laforgue, le patron du bar magnifique au bord de l'eau, vraiment, parce que la marée est haute de l'escale. David, un temps de rêve, c'est un temps de cinéma aujourd'hui.
C'est effectivement un temps de cinéma, c'est un temps d'été. Il y a pas un souffle d'air. La marée est haute, là, ça vient frapper sur le Perret. On est un peu dérangé là par le bruit des vagues, non ?
Mais ouais, j'espère que ça ne va pas les embêter.
Ça va pas embêter les clients, effectivement, mais ou à Paris. Mais non, on est ravis du temps qu'il y a, et effectivement.
Et c'est vrai que c'est un peu nouveau parce qu'il faisait pas aussi beau ces derniers jours.
Alors on a eu avril, ça n'a pas été effectivement un mois très beau, puisqu'en fait les deux derniers confinements, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait très beau en avril 20 et en avril 21, et cette année ça n'a pas été le cas, mais les clients étaient là, les touristes aussi, donc ça s'est plutôt pas trop mal passé en avril.
Voilà Amandine, Pascal, les terrasses sont vraiment garnies, il y a le palmier magnifique, le ciel bleu, et je pense que ça va se terminer avec un petit cabillaud grillé, tout ça, enfin c'est pas sûr.
Allez-vous baigner,
et là, le record, c'est 34... indécent, cher ami.
C'est indécent, je sais.
Mais oui, parce que alors, le record, Paris, c'est très bien, mais alors Paris, quand il fait chaud, alors c'est compliqué.
Ah ouais, c'est pas bien. Ah oui, c'est... 34 degrés, le record ici au mois de mai, c'était en 2002.
Oui, rajoutez des ans.
Atteindre ce...
Allez-y, record sur le banc d'Arguin. Allez-y.
Bon, Denis,
allez-y.
Baignez-vous et rappelez-nous après. Ouais. Louis Baudin, c'est exceptionnel ou pas de telles températures ? Là, c'est quasiment toute la France qui est concernée. Voilà. On n'a pas tous aussi chaud, mais enfin, il fait chaud partout. Un 9 mai. C'est
non, c'est pas exceptionnel.
Non.
Alors, c'est anormal, hein. On est au-dessus des moyennes, ça, c'est indéniable, 5-7 degrés au-dessus, mais c'est pas normal. On a déjà connu, effectivement, des températures élevées au mois de mai, y compris sur toute la France, hein. C'est tout simplement l'anticyclone des Açores qui arrive un peu plus tôt et qui nous apporte ces températures, donc, quasiment estivales partout. Donc, c'est pas anormal.
Et est-ce que c'est inquiétant?
Alors, inquiétant.
Oui.
Bah oui, certains disent, je sais pas, réchauffement climatique.
Alors tout inquiétant, ça. Pas pour la température, parce que effectivement, avoir des températures élevées. Alors évidemment, ça dure tout le mois de mai. Je vous dirais, oui, ça peut être inquiétant. On verra si ça dure au-delà de 7 ou 10 jours. Non, ce qui est inquiétant, ce sont les conséquences de ces températures élevées et de cet anticyclone qui empêchent les perturbations d'arriver jusqu'à nous et donc d'apporter des pluies. Ça,
la sécheresse.
La sécheresse, elle, peut s'accentuer ces prochains jours.
Merci beaucoup, Louis. On fera un point complet dans le détail sur la semaine à 13h.
Le dernier hommage à Régine.
La reine de la nuit qui est décédée le 1er mai dernier. La cérémonie avait lieu au crématorium du cimetière du Père-Lachaise. Laurent Marsic, une cérémonie à son image.
Oui, totalement à son image. C'est pas du tout quelque chose de galvaudé jusqu'au bout. Régine aura surpris son public. Elle est venue ici au Père-Lachaise. Le public est venu lui rendre un dernier hommage. Elle est arrivée dans un corbillard tiré par deux chevaux avec cocher en habit, chapeau de forme dans la chapelle du crématorium. Ses amis comme Jeanne Birkin, Carla Bruni, Carole Bouquet, Anthony Delon, puis des officiels comme la ministre de la Culture, Rosine Bachelot ou encore la maire de Paris, Anne Hidalgo. Catherine Ringer a ouvert cet hommage en interprétant a cappella Les Petits Papiers. Et là encore, Régine a surpris tout le monde, puisqu'elle avait enregistré des petits messages audio à l'adresse de ses amis, ponctuant chaque message, comme elle le faisait quand elle leur téléphonait, chaque message d'un « à tout de suite ». Je vous le disais, il y avait une petite centaine de personnes massées ici, derrière les barrières, comme cette dame, Lucette, fan de la première heure.
Je l'adorais depuis que je suis toute petite. J'aimais sa couleur de cheveux, j'aimais sa gouaille, j'aimais ses chansons. Et quand j'étais plus jeune, je me coiffais comme elle. Là, j'ai trop de cheveux blancs, je ne peux plus être rousse. Je l'adorais.
Voilà, et puis vous l'entendez derrière moi pour ce dernier voyage. Le public a lui aussi beaucoup chanté ici derrière les barrières au Père-Lachaise.
Laurent Marsic en direct du cimetière du Père-Lachaise pour RTL.
Papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers.
Régine. Dans deux secondes, notre premier focus du jour, retour sur ce défilé militaire à Moscou. On est loin, vous le verrez, de la démonstration de force.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Retour donc sur ce défilé. C'était ce matin à Moscou, grande parade militaire. Comme chaque année, le 9 mai, la Russie célèbre la défaite nazie. Dans le contexte de guerre avec l'Ukraine, on s'attendait à une grande démonstration de force. Alors les chars étaient là, les soldats aussi, hein, 11 000 hommes. Mais pas d'avions, pas de défilé aérien. Bonjour Général Trinquant.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Le Kremlin a expliqué que les conditions météo n'étaient pas bonnes, pas suffisamment bonnes en tout cas pour faire voler ces avions. On peut y croire à cette version ou pas ?
Alors écoutez, le défilé aérien a été répété, donc dans les jours précédents il y avait bien des avions dans l'air, donc on peut dire qu'ils étaient présents. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a été annulé au dernier moment ? Vous savez que pour le 14 juillet, nous aussi, le matin même, on peut annuler le défilé en fonction de la météo. Hein. Donc je n'ai pas vérifié la météo à Moscou ce matin précisément.
Elle avait l'air plutôt bonne en plus.
Le ciel était un peu nuageux quand même. Mais...
Voilà, le problème sont les voiles de nuages en basse altitude, puisque c'est un vol à basse altitude au-dessus d'une ville, donc sur laquelle on ne prend pas de risque d'avoir... un problème quelconque. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce que je peux dire, c'est que les avions étaient présents les jours précédents dans les répétitions.
Donc il ne faut pas forcément y voir un signe de faiblesse ou autre.
Non, je ne vois pas de signe de faiblesse particulier. D'autant que, si vous voulez, ce défilé laisse beaucoup de monde sur leur faim, parce que tout le monde, en Occident au moins, agité des tas de menaces diverses et variées. Moi, j'ai toujours pensé que ça serait un défilé normal, sauf que la guerre est là et qu'il s'agit de s'adresser à la population russe pour la rassurer sur les buts de guerre, protéger la Russie et sur le fait que, de toute façon, en dehors de la Russie, à l'Ouest, face à l'Ouest, il n'y a que des nazis, ce qui nous concerne au premier chef.
On avait effectivement dit que ce serait l'occasion d'une grande démonstration de force, en gros qu'il allait montrer ses muscles et de quoi la Russie était capable. En fait, c'était quoi, une imagination de la part de l'Occident, un fantasme ?
Je pense, oui, que c'était un fantasme de la part de l'Occident. Beaucoup de choses sont des fantasmes actuellement de la part de l'Occident dans ce qui concerne la Russie. On s'imagine beaucoup de choses parce que, naturellement, la grande révolution, c'est que la guerre est de retour en Europe. Et ça, c'est un fait majeur. Et que nous ne savons plus gérer cette guerre. Et aujourd'hui, lorsque j'entends tous les jours me demander si les choses avancent, comment ça se passe, je rappelle que le tempo de la guerre n'est pas exactement le tempo des médias. Et que nous redécouvrons toutes ces choses-là avec inquiétude, à juste titre, mais il ne faut absolument pas s'affoler et garder le calme des vieilles troupes, comme on dit.
Monsieur Trinquant, le discours de Vladimir Poutine à présent, ce qui est intéressant, c'est de décrypter, de traduire en termes diplomatiques ce qu'il a dit. On pensait par exemple que ce 9 mai serait pour lui l'occasion d'adresser un message fort à l'OTAN, et ça n'a pas été le cas.
Non, parce qu'une fois de plus, je répète, ce discours, il est à l'adresse des Russes, pas de l'OTAN, pas de l'Ouest. Il est à l'adresse des Russes.
Pourtant, il sait que ça va être diffusé dans le monde entier, regardez, scruté.
Mais vous n'y voyez pas quand même, vous n'y voyez pas quand même un souci d'apaisement, de désescalade chez Vladimir Poutine. Est-ce que vous l'interprétez comme ça?
Alors oui, vous avez raison. Lorsqu'il a dit qu'il fallait tout faire pour éviter une grande guerre catastrophique, je ne me souviens plus du terme exact, mais là, je pense qu'il y a une désescalade.
C'est-à-dire, c'est important quand même.
Oui, non, mais vous avez raison.
Et c'est analysé en Occident.
Bien sûr, vous avez raison, mais je pense que c'est le seul point. Pour le reste, si vous voulez, il s'adresse au peuple russe. Mais vous avez raison, il y a un message vers l'Occident en disant pas de panique. D'une certaine façon. Ceci étant, il rappelle tout de même que nous sommes dans une guerre idéologique, d'une certaine façon.
Oui, parce qu'il a parlé de l'Occident qui, moralement, était dégénéré, hein, je crois. Selon les traductions, il y avait des traductions différentes sur cette expression, mais ça pouvait surprendre.
Et pour reprendre sa formule exacte, c'est « il faut tout faire pour empêcher l'horreur d'une guerre globale ». Général Trinquant, d'après vous, on est parti sur une guerre qui va durer des mois, des années ?
Oui, la guerre va... Alors, la guerre va durer sur le terrain, parce que le Donbass n'est pas conquis et que l'armée russe va vouloir conquérir la fin du Donbass. Donc ça va durer. Et puis, sur l'aspect idéologique que vous venez de citer, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'il y a des tas de combats à mener ailleurs. Nous, les Français, le savons bien en Afrique, au Mali et en République centrafricaine, où nous nous heurtons à Wagner. On parle aussi... Kaliningrad, la Transnistrie, la partie serbe de la Bosnie-Herzégovine. Il y a beaucoup de points sur le globe dans lesquels la confrontation peut continuer sous une forme différente de celle qui se passe en Ukraine, mais tout de même.
Et la guerre va d'autant plus durer que, si j'étais provocateur, je dirais qu'on finance cette guerre en achetant le pétrole et le gaz russe, monsieur Trinquant. Merci.
Oui, vous avez raison.
J'allais dire hélas, mais on la finance nous-mêmes, c'est ça le paradoxe.
Ça va prendre du temps.
Merci monsieur Trinquant. Dans une seconde, faut-il ou non réintégrer les soignants non vaccinés? Rémi Salomon de la PHP sera notre invité. À tout de suite.
RTL en commun. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'est du jean-foutisme hein, pour moi. Hein. On va pas refiler le Covid aux patients non plus, quoi. Pourquoi on va réintégrer des gens qui ne sont pas fait vacciner? Non, je comprends pas. Non, c'est pas logique.
Moi, j'étais contre la suspension déjà parce que ça n'avait aucun sens. C'est des libertés personnelles. Suspendre quelqu'un, ne plus le payer, de les foutre dans la merde et puis de leur dire finalement ça va, la vague est passée.
Dans ce service d'urgence de Seine-Saint-Denis, comme sans doute partout ailleurs en France, la question du retour des soignants non vaccinés est loin de faire l'unanimité. Vous venez de l'entendre, question de santé publique, de principe aussi, disent certains. Il y a quelques jours pourtant, Emmanuel Macron a entrouvert la porte sans pour autant donner de date ni d'échéance. Alors faut-il accélérer les choses alors que dans certains services, et dans beaucoup de services d'ailleurs, on manque de bras? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Bonjour Rémi Salomon.
Bonjour.
Vous êtes le président de la commission médicale d'établissement de la PHP. D'abord, combien de soignants ont été suspendus parce que non vaccinés au sein de la PHP?
Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est très peu. C'est très très peu.
C'est-à-dire quelques dizaines, quelques centaines?
Oui, c'est plutôt de l'ordre de quelques dizaines. Hein, sur 18 000, peut-être a-t-on un peu au-dessus de 100, mais c'est pas beaucoup plus. Donc c'est vraiment très très peu. C'est le problème n'est pas là aujourd'hui. Vous avez dit que j'étais président de la communauté médicale de la PHP. Je préside également la conférence de l'ensemble des communautés médicales des CHU en France. Donc je peux vous dire, j'ai une vision nationale. Et donc c'est partout la même même réponse. Le nombre de soignants qui ne sont pas, qui ont refusé de se faire vacciner, est très faible. Par contre, il y a un manque de soignants.
Alors, on va revenir sur le manque de soignants dans un instant. Mais d'abord, ces soignants non vaccinés, il faut les réintégrer d'après vous ou pas ?
Je pense qu'il faut rester sur la position que nous avons prise l'été dernier, hein, de considérer que quand on est soignant, on ne doit pas faire courir de risques aux patients. On croise des gens qui sont fragiles, qui même étant vaccinés peuvent être attrapés le Covid parfois. Hein, chez certains immunodéprimés, sujets très âgés, la vaccination n'est pas toujours aussi efficace. Et donc, il ne faut pas, et surtout les immunodéprimés, il ne faut pas faire courir de risques. Et quand on est soignant, c'est une responsabilité que l'on a. Donc je, comme la plupart des soignants, hein, et la plupart des responsables dans les hôpitaux, nous considérons que l'obligation vaccinale doit persister. Le Covid, c'est pas tout à fait fini. On espère, hein, tous, on espère que le Covid deviendra une maladie moins grave et que nous n'aurons plus de vagues meurtrières. Personne n'en est sûr. Personne n'en est sûr. Il y a encore des variants dangereux qui circulent dans le monde. La vaccination est très efficace contre les formes sévères. Je dis bien contre les formes sévères, celles qui tuent, celles qui vous emmènent à l'hôpital. Il faut faire les rappels. C'est le message qu'il faut faire passer aujourd'hui. Il faut faire les rappels quand on a plus de 60 ans, quand on est fragile, immunodéprimé. Et j'ai peur que si on baisse la garde aujourd'hui, on se retrouve, le risque que l'on se retrouve dans quelques mois avec une vague, à nouveau une vague meurtrière, qui impacte l'hôpital avec toutes les conséquences que l'on sait pour aussi les autres et la prise en charge des autres malades, ce risque va augmenter. Donc c'est pas le moment de baisser la garde sur la vaccination.
Alors votre position, Monsieur Salomon, a le mérite de la clarté, parce qu'il y aura toujours un risque possible. Ça veut dire que les non-vaccinés ne reviendront jamais à l'hôpital, puisqu'on peut imaginer que le Covid devienne une maladie chronique.
Alors, j'ai pas dit jamais. Je dis qu'il était trop tôt. Si vous avez bien écouté mes propos, j'ai dit qu'il était trop tôt.
Mais il y aura toujours un risque. Pour les immunodéprimés, il y aura toujours un risque. Le risque qui sera le même dans un an, d'avoir une personne non vaccinée capable de transmettre le Covid à cette personne.
Le risque, là, je parle aujourd'hui d'un risque d'une vague épidémique, hein, qui nous frappe avec la même ampleur que les vagues précédentes. C'est de ça dont je parle. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas. Donc je ne dis pas jamais, je dis que dans le contexte actuel épidémique, il est trop tôt pour envisager une mesure de levée de l'obligation vaccinale. Je n'ai pas dit autre chose.
Rémi Salomon, vous évoquiez la situation à l'hôpital, dans tous les hôpitaux. Il y a quelques jours, vous disiez, on est à un point de rupture, ça craque de partout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous en appelez aujourd'hui à Emmanuel Macron, par exemple ?
Oui, au plus haut niveau, je pense qu'il faut prendre des mesures... Qui engageront des moyens supplémentaires, hein, financiers, j'en ai bien conscience, mais on est arrivé effectivement à un point où de plus en plus de professionnels, qu'ils soient médecins, infirmiers ou autres, quittent l'hôpital, car les conditions de travail sont devenues trop difficiles.
Sauf qu'il faut des mesures qui impactent très vite.
Ah, qui impacte très vite. C'est aujourd'hui des services d'urgence qui ferment. Il y a beaucoup d'hôpitaux. À 18h, le soir, vous n'avez plus de services d'urgence. Et donc, tout se reporte dans les plus gros hôpitaux où on a des délais d'attente qui deviennent trop importants. Moi, j'ai vu des patients attendre sur des brancards pendant 2 ou 3 jours.
Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup? Je sais pas, des primes, augmenter les salaires massivement, de combien? Enfin.
Alors, si vous me demandez quelles sont les mesures à prendre en urgence, et si je m'adresse aux politiques, il faut en priorité, je pense maintenant de manière urgente, mieux rémunérer le travail de nuit et de week-end, ce qu'on appelle la permanence de soins. Aujourd'hui, les professionnels sont beaucoup plus réticents qu'avant à travailler 80 heures par semaine. Donc, si on veut continuer d'avoir des professionnels dans les hôpitaux, parce que les patients sont toujours là, eh bien, il faut mieux les rémunérer. On n'est pas, vous savez, quand on est infirmier de nuit, on n'est pas mieux payé que le jour. Et ça, c'est tout à fait anormal. C'est un travail qui est plus dur, plus pénible. Il faut mieux le rémunérer. C'est absolument indispensable. Et puis après, il y a les conditions de travail. Il faut être en nombre suffisant pour bien travailler. Donc une infirmière qui a 15 patients à sa charge, elle ne travaille pas bien. Et au bout d'un moment, elle quittera l'hôpital car le sens de son métier est perdu. Et elle a peur surtout de mal faire, de mal soigner. Donc c'est à la fois une meilleure rémunération de la nuit et du week-end, et puis des conditions de travail, donc être en nombre suffisant pour bien faire le travail, c'est indispensable.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Salomon. Je rappelle que vous êtes président de la commission médicale d'établissement de la PHP. Il est 12h58. Nous allons partir avec les auditeurs dans quelques minutes.